Donc, elle doit mettre au monde un héritier et elle doit bien l'éduquer. Ce sont les femmes en particulier qui transmettent les premières lettres aux enfants, parce qu'elles savent lire, elles connaissent le latin, ne serait-ce que pour suivre les offices religieux. Et à ce titre, donc, elle, avant que le précepteur prenne en charge l'éducation, c'est la mère qui éduque.
Vous écrivez, Martin Aurel, que les chroniqueurs de l'époque décrivent Aliénor d'Aquitaine de façon contradictoire. Comment est-ce qu'elle est présentée au gré des chroniques ?
Oui, il y a des chroniqueurs qui, en particulier les Aquitains, les Poitevins, sa terre natale, qui sont très attachés à elle et qui donnent d'elle une vision d'une femme forte, pieuse, une femme attentive à son entourage et à ses enfants. Et puis vous avez tous ses ennemis, en particulier les proches de Louis VII, après la répudiation de la reine, qui disent à piquer à pendre d'elle. Les Anglais sont un peu plus nuancés, mais certains sont très bavards, très mauvaise langue, une langue acérée qui les pousse à raconter. Vous savez, à l'époque, l'historiographie, l'histoire, c'est surtout un recueil d'anecdotes pour amuser la galerie. Disons, en même temps, c'est sérieux. Nous pouvons les utiliser. Donc, Aliénor est devenue aussi un personnage un peu de vaudeville, d'une certaine façon.
Mm-hmm. Est-ce qu'on a des représentations de l'époque d'Aliénor d'Aquitaine ? Et quelle image souhaite-t-elle donner d'elle-même ?
Il y a plusieurs images. Il y a des images dans une chapelle troglodyte à Chinon, il y a le vitrail de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers où elle est représentée aussi, et vous avez surtout son gisant, elle est sculptée donc sur son tombeau. Et là, elle est en train de lire, c'est intéressant. Elle veut donner d'elle l'image d'une femme lettrée et aussi d'une femme pieuse, puisque elle est dans une église abbatiale, dans une abbaye, l'abbaye de Fontevraud, et elle veut montrer qu'elle suit les offices grâce à ce livre. Mais c'est la première fois en Occident où l'on a une statue avec une femme qui lit. Et ça deviendra, à la fin du Moyen-Âge, un thème extrêmement répandu.
Martin Aurel, quelques mots sur le premier mariage d'Aliénor d'Aquitaine. Je l'ai raconté, en 137, elle épouse l'héritier de la couronne de France, le futur roi Louis VII. Pourquoi le roi de France, Louis VI le Gros, la choisit-il pour épouser son fils ? On peut dire, elle est le meilleur parti de France ?
Absolument. L'Aquitaine est riche, vous avez rappelé ses vignes en particulier, ses ports aussi, Bordeaux, puis récemment La Rochelle, la qualité de ses cultures, pas seulement les vignes, donc, et puis c'est très très étendu l'Aquitaine, c'est tout le sud-ouest de la France, ça coïncide à peu près avec notre nouvelle Aquitaine actuelle, alors que le roi de France est très limité dans l'espace qu'il contrôle, à peu près l'Île-de-France, j'exagère, mais... Et il veut étendre donc sa puissance. Mais c'est vrai qu'en tant qu'héritière aussi d'une dynastie très prestigieuse, celle des Guillemides, Guillaume d'Orange, Guillaume Aucournay, un personnage de la chanson de geste extrêmement populaire, elle est aussi prestigieuse. Et la voir, c'est vraiment une proie désirable. Aliénor, après le concile de Beaugency qui détermine l'invalidité de son premier mariage, fera l'objet de deux tentatives de rapt. Heureusement, elle est suffisamment habile pour échapper à ses deux prétendants.
Et les époux se rendent en Orient, dans le contexte évidemment de la croisade. Une question brève, en l'absence des souverains, qui assure la régence dans le royaume ?
C'est l'abbé Sugère, l'abbé de Saint-Denis, au nord de Paris, un homme extraordinaire qui avait... connu Louis VI dans son enfance, puisqu'ils avaient étudié tous les deux dans l'abbaye de Saint-Denis. Et puis c'est un homme qui a un sens artistique exceptionnel. Nous lui devons le gothique. Il a imaginé des bâtiments où la lumière devait être partout. Et tout cela se fondait sur une philosophie, celle du pseudo-Denis l'Aréopagite, dont les écrits sont gardés, lus, relus, traduits dans son monastère, et pour lesquels Dieu est lumière, et cette lumière crée le monde, et cette lumière doit traverser les beaux vitraux. Pour cela, donc, il faut des bâtiments extrêmement légers, avec des voûtes d'ogives. C'est un exemple de ce que Sugère a su accomplir. C'est un homme exceptionnel.
Alors, je l'ai raconté, mais durant le séjour en Orient, la mésentente croît entre Aliénor d'Aquitaine et Louis VII. Cet épisode est à l'origine d'une légende noire de la reine qui s'y serait rendue coupable d'infidélité avec son oncle. Est-ce que cette rumeur est justifiée ?
À mon avis, non. Quand on examine de près la documentation, elle n'apparaît que très tardivement. Et puis, au fil des siècles, elle s'accroît. Je ne prends qu'un exemple. On lui attribue, dès le début du XIIIe siècle, une aventure avec Saladin, le sultan. Pas de chance, Saladin n'avait que 10 ans à l'époque où Aliénor était au Proche-Orient. Donc, vous voyez, c'est une légende qui est promue, qui est fomentée par ses ennemis, en particulier à la cour capétienne, et aussi par des clercs ou des moines chroniqueurs un peu bavards qui aiment bien les ragots, les calomnies, et donc qui s'amusent au détriment de la reine. Toute femme de pouvoir, de toute façon, est soumise à ce genre de critiques et d'inventions aussi, et Aliénor ne déroge pas à la règle.
Lequel des deux avait le plus envie d'invalider le mariage, Louis VII ou Aliénor?
À mon avis, c'est plutôt lui. Quand on examine là encore de près la vingtaine de témoignages sur ce qu'on appelle à l'époque le divorcium, le divorce, c'est Louis VII qui l'emporte pour une raison très simple. Si vous n'avez pas un héritier mâle, eh bien c'est la guerre civile, la guerre de succession à peu près assurée, avec tout ce que cela représente de malheur pour la royauté, mais aussi pour le peuple de France.
Alors, quelques mois, quelques temps après être libérée de Louis VII, Aliénor d'Aquitaine épouse le roi d'Angleterre, ou l'héritier en tout cas du roi d'Angleterre, Henri II, avec qui elle va avoir 9 enfants. Le mariage, bien que fécond, finalement ne sera pas plus heureux. Aliénor rallie les barons anglais et le roi de France contre son mari. Au fond, quelle influence cette femme a-t-elle auprès de son fils, de ses fils, auprès des puissants?
Une très grande influence, hein. C'est le prestige de sa famille, son titre d'héritière de l'Aquitaine, elle est duchesse d'Aquitaine, et puis il y a un rapport personnel très très intime avec Richard Cœur de Lion, qu'elle a éduqué dès 1168, alors que l'enfant n'a que la dizaine, à devenir duc d'Aquitaine, comme elle. Et auprès de Jean Santerre, ce sera la même chose. Jean Santerre fait horreur après horreur, gaffe sous gaffe, enfin sur gaffe. Et donc c'est toujours elle qui est là pour essayer d'arranger la situation grâce à son influence. Son entourage aussi, elle est appréciée, elle est écoutée. Et là, comme toute personne de pouvoir au Moyen-Âge, une cour extrêmement fournie. Et puis il y a ses parents de la famille de Châtellerault, il y a aussi les grandes familles poitevines hein, qui se déplacent avec elle au Limousine, à Aquitaine, en Angleterre. Donc c'est une femme qui a un réseau extraordinaire. Songez à ses trois filles qui ont épousé respectivement le roi de Castille, le roi de Sicile, et le duc de Saxe et de Bavière. Donc ça l'a fait vraiment la reine Victoria avant la lettre, hein. C'est vraiment la grand-mère de l'Europe. Elle est écoutée partout.
Aliénor d'Aquitaine meurt en 1204 à l'âge de 80 ans, ce qui est exceptionnel hein, pour l'époque. Qu'est-ce qu'on sait de ces dernières années? À quoi se consacre-t-elle?
Comme la plupart des femmes de son milieu, elle consacre ses dernières années à prier, offrir des suffrages pour son mari défunt. Elle a perdu aussi tous ses enfants, sauf 2 sur ses 11 enfants. Et donc elle s'installe dans un monastère, Fontevraud. Elle aimait bien ce monastère parce que c'est un monastère double composé d'hommes et des femmes, mais c'est l'abbesse qui gouverne, y compris les hommes, hein, qui, dans un acte d'humilité extraordinaire pour l'époque, accepte d'être gouverné par une femme qui souvent est une veuve, qui a été mariée, cette abbesse. Donc, elle a comme des atomes crochus avec ses sœurs, avec ses moniales, elle décide de s'installer dans ce village, et puis tous les jours, elle assiste aux offices, donc elle prie pour son mari. Vous avez parlé aussi de comment son mari avait été grand seigneur et lui avait donné des conditions de captivité tout à fait acceptables. Hein. C'était une surveillance pas plus. Et elle aussi, elle a su pardonner. Et là, donc, consacré les dernières années de son existence au salut éternel de son mari.
Un dernier mot, Martin Aurel. Qu'incarne Aliénor d'Aquitaine aujourd'hui en Angleterre? Parce que, évidemment, chez nous, elle est vénérée, et particulièrement à Fontevraud. Est-ce qu'on constate une opposition des mémoires entre la France et l'Angleterre au sujet d'Aliénor d'Aquitaine?
Tout à fait. Il y a Shakespeare qui a une très grande influence. Shakespeare avait écrit une pièce de théâtre, bon, c'est pas ce qu'il a fait de meilleur, hein, qui s'appelle Le Roi Jean, où Aliénor apparaît comme une harpie horrible qui ordonne l'assassinat de son petit-fils Arthur de Bretagne, qui se bat tout le temps contre sa bru, contre sa belle-fille, la mère d'Arthur, donc Constance de Bretagne, et qui est très autoritaire, très influent, qui vraiment réprime le pauvre Jean Santerre qui est sous sa coupe, qui a très peu de marge de manœuvre, mais Jean est fasciné par elle. Donc vous voyez, c'est un peu cette vision qui a été reprise par un film, un vieux film de 1968, The Lion in Winter, le lion en hiver, où Catherine Hepburn est aussi cette femme forte qui intrigue, qui manipule son entourage, qui se bat contre ciel et terre. Donc pour moi, ce que je puis étudier, c'est l'image que les Anglais en ont, est beaucoup plus négative, donc d'une sorte de femme terrible, de harpie, en comparaison de celle que nous avons ici en France.
Eh bien, merci beaucoup, Martin Aurel, de nous avoir accompagnés cet après-midi au cœur de l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, la reine la plus populaire du Moyen-Âge. Et je rappelle que votre livre, Aliénor d'Aquitaine, souveraine femme, est disponible aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Merci à vous.
De l'histoire ce week-end aussi, hein, avec Virginie Giraud qui nous racontera la véritable histoire de Pocahontas. C'est aujourd'hui samedi, et puis dimanche, elle retracera le parcours de l'un des plus grands stratèges de l'histoire, Napoléon Bonaparte. Rendez-vous donc de 15h à 16h sur Europe 1. Dans un instant, on va redécouvrir quelques témoignages de la Libre Antenne au micro d'Olivier Delacroix, mais pour le moment, musique avec un duo talentueux, Lady Gaga et Bruno Mars. Voici Die With A Smile.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. Since I survived, I realized
Smile sur Europe 1, c'était Bruno Mars et Lady Gaga. Lady Gaga qui frappe fort hein, puisqu'elle vient de nous offrir une sortie surprise d'un album qui s'appelle Harlequin. C'était le 27 septembre dernier. Voilà, elle a dévoilé ce projet inédit qui est en fait inspiré du personnage qu'elle incarne dans le film Joker Folie à deux. Voilà, alors bon, c'est pas la bande originale du film Le Joker, hein. Et c'est ni non plus l'album pop que l'on attend pour le mois de février, c'est simplement, voilà, un album un peu vintage, voilà, en mode crooner, et qui rappelle ses collaborations avec Tony Bennett, donc si vous souhaitez jeter une oreille, Harlequin, c'est le titre de cet album. Bonne nuit avec nous sur Europe 1 et avec Olivier Delacroix, puisque c'est l'heure de la libre antenne en nouvelle diffusion. Vous le retrouvez du lundi au jeudi de 22h45 à 1h. Et pour le joindre, 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous avez composé pour passer sur notre antenne.
Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir Olivier.
D'où vous appelez-vous Jean-Jacques et quel âge avez-vous ?
J'ai 58 ans et je vous appelle de l'Allier, entre Vichy et Moulins.
Alors pour info, vous avez créé revivre-après-l'emprise.org. Revivre après l'emprise. Oui. Vous avez aussi lancé une pétition sur mesopinions.com, victime de pervers narcissiques, de points, exigeons des mesures contre ces prédateurs récidivistes. Je pense que nous allons avoir une longue discussion, mon cher Jean-Jacques, parce qu'il y a d'abord toute une histoire qui a dû faire naître cette association et puis cette pétition. Pourquoi, en fait, avez-vous créé cette association ? Qu'avez-vous vécu ?
Alors j'ai créé cette association, effectivement, suite à une expérience de vie relativement dramatique et à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai croisé, alors j'ai attendu 50 ans pour comprendre que les personnes, les méchants qui nous fascinaient dans les dessins animés existaient vraiment. Et je vous dis ça vraiment sans peser mes mots, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai croisé moi une personne que j'ai considéré assez rapidement comme une sœur de cœur, qui en fait s'est révélée comme ma pire ennemie. Donc c'est la notion de le principal du pervers narcissique, c'est-à-dire d'abord une séduction accrue. Alors moi, qu'on soit clair, j'ai vécu une relation qui n'avait rien d'une relation de couple, hein, c'était vraiment une relation fraternelle, enfin que je considérais moi comme fraternelle.
Amicale.
Alors plus qu'amicale, hein, puisque sœur de cœur pour moi. Enfin,
oui, je vois. Hein. Je pense que celles et ceux qui nous écoutent voient très bien amicale, mais l'ami avec un grand A qui est votre comme votre sœur en fait, comme on a un meilleur ami souvent. Qui dont on le dit c'est mon frère, alors pas de sang, mais c'est aujourd'hui mon frère parce que la nature de nos relations est tellement importante, épaisse, saine que c'est mon frère, c'est devenu mon frère. C'est de cela dont vous nous parlez.
C'est tout à fait ça dont je vous parle. Et donc cette personne s'est initiée. Alors ça a été évidemment pas une amitié, on va dire flash. C'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie d'abord pour des raisons professionnelles. Et qui petit à petit s'est initié, enfin pas s'est initié, mais est devenu rapidement une amie. Pourquoi ? Parce que je me reconnaissais en elle. Alors je sais pas comment vous expliquer ça parce que c'est pas toujours évident. Mais d'ailleurs on nous appelait au bout d'un moment les jumeaux, mm-hmm. Puisque dans les caractéristiques des pervers narcissiques, il y a ce qu'on appelle le mimétisme, c'est-à-dire que ces gens-là se mettent, si vous voulez, à vous ressembler.
Je vois parfaitement. Ils empruntent vos expressions, ils vont emprunter des mots. Ça peut être aussi des mots d'argot que vous avez. Il y a un mimétisme au niveau même du rire, de la manière de parler, la manière de marcher, la manière de penser finalement. C'est ce que la victime finit par croire en fait au bout du compte.
Oui, alors si je puis me permettre, Olivier, le vrai problème est que souvent on n'évoque pas les personnalités, les psys, etc., et qu'on oublie, et j'ai d'ailleurs posé la question à un psychologue, je lui ai dit mais on oublie quand même souvent, parce que vous savez, quand on parle de ces histoires-là, personne comprend, on se dit mais comment il s'est fait avoir, il comprend, il est incrédule, etc. En réalité, le fait c'est qu'on nous donne de l'amour. Parce que en fait, c'est l'amour qui va nous tuer dans cette affaire, et en fait, c'est aussi l'amour qui va nous sauver. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais si vous voulez, aujourd'hui, moi, j'ai aimé cette personne comme vraiment comme ma sœur, et comme ce sont des gens qui n'ont aucune empathie. Mais quand vous êtes dans cette relation, vous ne pouvez pas le savoir. C'est ça qui est très difficile à comprendre. Alors surtout dans une relation amicale, puisque vous ne vivez pas avec. Donc moi, je n'ai jamais vu de côté sombre à cette personne, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de relations avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Parfois on voit le côté sombre. Moi, comme évidemment je ne la voyais pas, que je la voyais souvent, je l'avais souvent au film, mais je vivais pas avec, donc je n'ai vu que son côté clair. Vous voyez ce que je veux dire?
Je vois pas vraiment. Donc, je vous interromps juste quelques secondes, Jean-Jacques, pour vous dire que sur cette libre antenne depuis 5 ans que j'ai le plaisir et l'honneur de siéger dans cette libre antenne, nous avons souvent traité de relations toxiques et donc de cette perversion narcissique sous bien des formes, parce que vous évoquez là dans le début de votre témoignage une histoire d'amitié très forte. Cette perversion narcissique peut aussi bien évidemment s'appliquer aux histoires d'amour, aux histoires parfois même professionnelles, mais on retrouve toujours ce que vous décrivez là au début, l'amour, c'est-à-dire ce pervers qui installe une espèce de lumière autour de la victime, il la sublime, il la met en lumière, il fait tout ou elle fait tout pour montrer que vous êtes un être sublime, et elle fait celle qui vous aime et vous finissez par l'aimer.
Tout à fait. Alors après, on ne sait pas si on aime vraiment cette personne-là ou on aime l'image qu'elle nous a donnée, puisque ça, c'est une réflexion que j'ai encore aujourd'hui, X années après. Mais en tout cas, à ce moment-là, on l'aime effectivement. On est même relativement fasciné. Moi, je disais souvent à l'époque, mais c'est quelqu'un que j'aurais jamais pensé rencontrer. C'est-à-dire que, si vous voyez, c'est une des plus belles rencontres de ma vie.
Elle vous a séduit au début.
Et la séduction, j'ai utilisé ce terme parce qu'effectivement c'est celui qu'on connaît le mieux, mais disons que, vous savez, c'est un petit peu comme le pêcheur qui ferre son poisson. Elle m'a lancé effectivement de l'amour au sens fraternel, comme on le disait au tout début, c'est-à-dire qu'elle s'est présentée, je crois que les psys appellent ça l'abus de transfert. Elle a très vite compris qui j'étais. Moi, j'ai été orphelin relativement tôt, pas de frères et sœurs, et elle s'est positionnée comme ma sœur, mais pas au hasard, c'est-à-dire que, si vous voulez, elle a compris où était, on va dire, ma faille affective. Oui. Pas trop ce mot-là, mais on a tous des traumas. Hein.
C'est très précis, la faille affective. Je trouve que c'est très précis. C'est, en tout cas, c'est très imagé. La faille affective, c'est voilà cet endroit par lequel on peut se faufiler à l'intérieur de l'autre et commencer à le manipuler, en fait.
C'est tout à fait ça. Donc elle s'est positionnée comme ça, ça a évidemment très vite marché. Et si vous voulez, ce qui est surprenant, là je vous donne mon point de vue à moi, parce que là c'est ça qui était important, mais moi je leur ai donné le bon Dieu sans confession, c'est-à-dire que je n'ai pas écouté d'ailleurs un certain nombre de voix qui à l'époque me disaient attention, elle n'a pas une bonne réputation, etc. Si vous voulez, on est très vite lobotomisé. Alors l'amour, c'est un peu ça, on dit l'amour rend aveugle, mais je pense qu'il rend aussi sourd et peut-être idiot, hein. Mais en tout cas à ce moment-là, on est, alors c'est la manipulation qui a démarré, c'est ce qu'on appelle aussi l'emprise, mais ça, l'emprise, c'est quelque chose qui est très difficile à définir. Pour moi, l'emprise, c'est une fois qu'on a cette séduction, c'est de maintenir, eux, ils ont l'art de maintenir, on va dire, avec la manipulation, le mensonge, tout un tas de, un mode opératoire qui est d'ailleurs souvent le même chez les pervers ou les perverses narcissiques. Ils arrivent à vous, ouais, moi je dis lobotomiser parce que c'est mon terme, mais en gros, ils vous êtes plus vous-même. C'est-à-dire que moi, je vous dis, j'écoutais même plus ni ma femme ni mes enfants. Ça a été d'ailleurs, et aujourd'hui, je suis incapable d'expliquer quelques années après pourquoi et comment je suis tombé là.
C'est très difficile, Jean-Jacques, d'expliquer cela. C'est marrant parce que c'était une discussion que j'avais avec ma collaboratrice sur Dans les yeux d'Olivier, qui travaille avec moi depuis 15 ans maintenant, qui est une jeune femme de 37 ans, et à qui je disais, mais comment je peux me faire avoir, parce qu'il m'arrive encore de me faire avoir, de me faire manipuler, et ça l'étonne toujours que justement que j'ai du mal à comment vous dire, à voir la manipulation. C'est très compliqué, parce que en plus elle a tellement de formes, cette manipulation. Elle peut tellement vous être servie de manière différente que oui, je suis capable d'évoquer la manipulation. Oui, je suis capable de la disséquer, de l'identifier chez l'autre. Mais quand il s'agit de moi, je peux vous dire que c'est très compliqué de me l'expliquer. Donc, je pense que c'est très compliqué quand on manque de recul sur nous-mêmes, finalement. On l'identifie chez les autres, finalement, mais oui. C'est très compliqué pour nous.
Alors, et en plus, on n'y est pas prêt, si vous voulez. C'est comme moi, vous savez, j'ai attendu 50 ans pour, comme je vous le disais au tout début, mais c'est vraiment ça. Je crois qu'il y a un livre qui, je ne sais pas si vous connaissez, Les reclus de Montflanquin, qui était une histoire assez terrible de pervers narcissique enfermé dans un château.
Je vais vous dire, il y a un film dans les yeux d'Olivier consacré aux reclus de Montflanquin, et je peux vous dire que j'ai tous les reclus. Vous pouvez aller le consulter sur la chaîne YouTube de Dans les yeux d'Olivier. Bien évidemment, le podcast existe aussi sur Europe 1, puisque vous savez que Europe 1 a fait Dans les yeux d'Olivier en podcast. J'ai très bien connu cette histoire, mais là encore, j'ai identifié de quelle manière cet homme que j'ai rencontré, aussi que j'ai vu, Tilly, le fameux manipulateur, oui. M'a fait un effet. Je vais vous dire, je l'ai vu au tribunal lors de le dernier procès qui a eu lieu à Bordeaux. Et je peux vous dire que j'ai observé ce petit homme tout dans le box des accusés, ce petit homme tout fin là, un peu recroquevillé sur lui-même, qui, comme ça, pendant 20 minutes, n'avait pas moufté. Et je peux vous dire que je l'ai vu exploser au bout de 20 minutes ou une demi-heure, en s'adressant à la présidente, en s'adressant à ses assesseurs. Et là, j'ai vu la force, le charisme de ce petit bout d'homme. C'était sidérant, en fait. Et voilà, parce que tous ces pervers ont quelque chose de particulier, hein. Ils ont généralement une intelligence particulière.
Ils ont un aplomb particulier, déjà. Énorme.
Oui, mais c'est lié à une sorte d'intelligence, hein, mon cher Jean-Jacques. Malheureusement, parce qu'on va revenir sur une phrase que vous m'avez dite et qui a fait vibrer quelque chose. C'est que vous m'avez dit, j'ai mis 50 ans à m'apercevoir qu'il y avait des méchants. Est-ce à dire que pendant 50 ans, vous pensiez que vous viviez dans le monde des bénis oui-oui?
Alors, pas des bénis oui-oui. Alors, vous n'êtes pas sympa sur les bénis oui-oui.
Non, c'est une question volontairement, pardonnez-moi, nulle intention de vous blesser, mais je savais, moi, qu'il y avait des méchants. Vous voyez, même dans les films, il y a des méchants. Bon, même si on nous a servi très longtemps, on n'est pas très loin en âge, mon cher. Donc, on a été, on a baigné dans la culture des films de John Wayne, de Steve McQueen, d'Alain Delon. Généralement, c'était les gentils qui gagnaient toujours à la fin.
Oui, hein, c'est ça. Comme dans les dessins animés de Walt Disney.
Exactement.
Ils gagnent à la fin.
Voilà. Ils gagnent à la fin. Mais bon, j'ai envie de vous dire que il y a un moment, moi, quand je m'en suis pris une, deux, trois, quatre, et puis que, en plus, ayant été élevé dans la culture du christianisme, hein, j'étais plutôt, on m'avait toujours dit, il faut être gentil avec l'autre, hein, il faut pas voler, il faut pas taper, il faut pas mentir. Bon, tendre la joue droite quand j'en avais pris une sur la gauche, ça j'ai jamais trop fait, mais quelque part dans la vie, je me suis très longtemps comporté comme ça, jusqu'au jour où je me suis dit, mais attends, il y en a plein qui respectent pas le truc là. Et donc je me suis quand même aperçu qu'il y avait quand même des méchants. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai commencé quand même à me méfier.
Les méchants qui se voient. Il faut faire la différence entre les méchants qui se voient et les méchants qui vous manipulent. On parle vraiment de perversion et de manipulation. Et cela, je peux vous assurer, alors pas dans tous les cas, mais moi j'ai beaucoup de témoignages maintenant avec l'association, si vous voulez, où d'ailleurs on le voit. Hein, on a aussi un problème de dépendance affective, mais ça c'est un autre sujet. Mais où on a des gens qui n'arrivent pas à voir le mal en face d'eux et qui ne voient que ce qu'on appelle le gaslighting du départ, c'est-à-dire la séduction folle qu'ils donnent au début. Oui. Et ça devient une addiction, notamment dans le couple. Je ne sais pas si vous avez sûrement eu des témoignages là-dessus.
Bien sûr.
Où on ne peut plus s'en séparer parce qu'on se dit un jour ça va revenir. Ils m'ont tellement donné que ça va revenir. Mmh. Et c'est vrai. Mmh. Parce que comme ils sont manipulateurs, de temps en temps, vous savez, ils vous relancent un petit coup d'amour au milieu. Mmh. Et après, vous replongez parce que malheureusement, alors moi, je vous cette partie-là, je ne l'ai pas vue, c'est pour ça que je n'en parle pas trop. Je n'ai pas vu ce côté sombre. Moi, j'ai vu le côté sombre par rapport aux dégâts que cette personne a fait dans ma vie, mais elle les a fait de manière totalement sournoise, puisque ils ont aussi l'art, si vous voulez, de faire prendre des engagements. Ça, c'est quelque chose de très important pour ceux qui
on va sortir, d'ailleurs, après, finissez votre phrase, et après, on va sortir des grandes tendances et rentrer dans votre histoire pour qu'on identifie bien. D'accord?
Oui. Tout à fait. Je voulais juste y dire ce problème d'engagement parce que ils font prendre très rapidement l'engagement. Ça peut être le mariage, ça peut être le déménagement, ça peut être changer de boulot, ça peut être. Et tout ça, c'est des engagements qu'on n'a pas envie de prendre et on les prend
difficile.
Pour l'autre.
C'est difficile.
Voilà, c'est très difficile et c'est surtout déstabilisant. Et je pense que ça fait partie du mode opératoire de ces gens-là.
Mm-hmm. Alors,
voilà, je voulais juste vous dire.
Comment, de toute façon, on va y revenir, hein. Mais je trouve que. C'est toujours plus facile pour nous tous hein, et nous toutes d'identifier bien justement toutes ces tout justement ces manières de manipuler lorsqu'on rentre dans l'histoire personnelle. Jean-Jacques, en 2003, depuis 2003, vous êtes à votre compte et vous êtes expert comptable.
Oui.
Et puis en 2009, vous rencontrez cette femme. Dans quelles circonstances vous la rencontrez et comment ça se passe?
Je la rencontre totalement, alors pas par hasard, mais par une demande de conseil au téléphone, où elle demandait des conseils pour son mari. Mm-hmm. Et dès le premier appel, je vous cache pas que, alors moi je fais partie des gens qui je sais pas, je ressens des choses quand j'entends le son d'une voix. Et elle était déjà, si vous voulez, un petit peu hors norme. Moi j'aime pas trop le concept de normalité. Je fais partie des gens qui aiment bien les gens qui.
Non, mais c'est séduisant. Voilà, les gens
qui sortent de l'ordinaire. C'est ça. C'est séduisant, un peu cash, vous savez, un peu rentre dedans. Bon, bref, comme ça, mais c'était le premier appel. Donc, si vous voulez, on a échangé. On a donc au départ juste eu une relation professionnelle, puisqu'elle était donc ma cliente par l'intermédiaire de son mari. Et il s'est passé quelque chose au bout de quelques mois, c'est que son mari, malheureusement, s'est suicidé, mais ça fait partie, après coup, on pourra en reparler, de quelque chose qui aurait peut-être pu m'évoquer, ou me générer des doutes,
oui,
mais
enfin, ça a été difficile. Difficile.
Oui, voilà, difficile. C'est-à-dire que pour le coup, ça a été la veuve éplorée, si vous voulez. Et moi, qui ai un peu le syndrome du sauveur, parce que ça, c'est aussi un point important, il faut arrêter de penser qu'on peut sauver tout le monde, il faut déjà essayer de se sauver soi.
Vous disiez, Jean-Jacques, que son mari s'est suicidé à l'époque, en 2009, quand vous la rencontrez, mais impossible pour vous d'identifier quoi que ce soit, vous ne la connaissiez pas assez à l'époque.
C'est vrai qu'après, c'est avec le recul que j'ai pu analyser ça, mais à l'époque, je pouvais pas, et bien au contraire, ça m'a, aggravé le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que si vous voulez, derrière, c'était la veuve éplorée, elle avait beaucoup de problèmes d'argent, enfin, que disait-elle en tout cas. Et puis là, pour le coup, on a accéléré les relations se sont devenues vraiment amicales, elle venait chez nous régulièrement, elle m'appelait de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle devenait, si vous voulez, c'est des gens qui sont là tout le temps, hein, ils s'impliquent beaucoup dans la vie. C'est aussi pour ça qu'on peut plus s'en passer quelque part et que ça génère de l'emprise, hein, puisque ils s'impliquent dans toute la vie. En plus, elle avait l'avantage ou pas, mais médium magnétiseur. Donc évidemment, d'une part, je lui faisais toute confiance. En plus, je pensais qu'elle avait un certain nombre de dons. Donc, si vous voulez, elle savait tout sur moi. Mmh. Clairement, ça c'est aussi quelque chose d'essentiel.
Et que vous avez bien voulu lui dire. Que vous avez bien voulu lui dire.
Dans le cadre de cette relation amicale, si vous voulez, elle savait, comme une relation fraternelle. Hein, c'est-à-dire qu'elle me disait un certain nombre de choses, lui disait également. Donc, une fois qu'on a eu cette période amicale, il s'est passé une chose importante, c'est que donc j'étais à mon compte, comme vous le disiez, depuis 2003. Et elle m'a dit, écoute, je pense que tu t'en peux plus, là, t'es fatigué. C'est donc là, on atteignait 2015, on est en 2015, là. Mais un élément très important. Et elle me dit, écoute, tu vas avoir des problèmes de santé, je pense qu'il faut que tu envisages de vendre ton cabinet.
Ah ouais,
donc là, grosse étape, vous parlez d'engagement, grosse étape. Mon épouse n'était pas d'accord.
Que fait votre épouse dans la vie, pardonnez-moi?
Mon épouse, elle tient des gîtes dans notre région.
D'accord.
Et en même temps, elle a fait, depuis cette expérience, elle s'est lancée dans le coaching de vie.
D'accord.
Puisque les expériences de vie, comme je vous le disais, font qu'on essaye d'utiliser, ça s'appelle peut-être la résilience.
Mm-hmm.
Voilà, mais on utilise les expériences pour faire quelque chose d'autre, mm-hmm. pour aider les
autres. Donc, votre épouse, n'était absolument pas d'accord avec le fait que vous vendiez. Et vous vous sentiez vraiment à bout, vous vous sentiez, proche du burn-out, ça ne marchait pas.
Très franchement, je pense que c'est comme tout chef d'entreprise. J'étais au moment où ça avait pas mal grossi. J'avais des problématiques de personnel. On était une dizaine. J'avoue que j'étais un peu usé par tout ça.
Oui.
Et je me disais, après tout, c'est peut-être une bonne idée. Je pourrais faire autre chose. Parce que ça ne s'en est pas resté là. C'est-à-dire, si vous voulez, elle m'a bien appuyé là-dessus. Et en même temps, elle me projetait dans l'avenir. C'est pour ça que je vous parlais d'engagement. La vente, c'est une chose, mais elle savait bien à l'époque, j'étais évidemment loin de l'âge de la retraite, et elle s'est dit, bon, elle m'a dit, vends, tu vas voir, tu vas vendre rapidement, et puis derrière, tu vas faire un autre projet, tu vas te faire plaisir, tu vas faire autre chose, la comptabilité, c'est pas toujours très marrant, bref. Mm-hmm. On a eu de longues discussions là-dessus. Bref, j'ai quand même...
Avant que nous allions plus loin, pardonnez-moi de vous interrompre, mais... Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez beaucoup de points communs, de goûts similaires.
Oui.
Ils ont déjà opéré là pour que vous écoutiez cette
tout
femme
à
ce point. Donc c'était quoi ces points communs, ces goûts similaires?
Alors les points communs, si vous voulez, quand je parlais de mimétisme, elle avait beaucoup. Enfin, pour moi, elle avait beaucoup d'humour. Elle avait une certaine éducation. Elle aimait la bonne vie comme moi. elle était aussi si vous voulez, comment vous dire, dans les pensées, elle était conviviale, elle aimait bien la dérision. Vous voyez, tout un tas de choses qui font que dans la vie courante, on se ressent, on avait des points communs à ces niveaux-là. Vous voyez,
dans donc votre femme, elle n'y voyait rien de
alors,
gênant.
Alors, il n'y avait aucune ambiguïté.
D'accord.
Alors, il n'y avait aucune, qu'on soit clair, je le redis, hein, mais aucune ambiguïté
d'accord.
sur notre relation.
D'accord.
Puisque elle a toujours été fraternelle. Et là-dessus, ma femme n'a jamais eu de soucis là-dessus.
D'accord.
Elle sentait une, si vous voulez, elle
y avait une emprise,
elle le sentait, mais elle a eu l'intelligence, parce que si vous voulez, quand on a quelqu'un qui est sous emprise, parce que ça c'est une problématique importante, soit on s'en va, on laisse tomber, soit il faut y aller avec des pincettes.
Oui.
Parce que quelqu'un qui est sous emprise, si vous lui rentrez cash dedans...
Oui. Vous devenez vite l'empêcheur de danser et l'emmerdeur de service. Et là, l'emmerdeuse.
Exactement.
En fait.
Oui. Et surtout, vous isolez encore plus la victime, parce qu'en faisant comme ça, il y a beaucoup de questions qui se sont posées à l'association là-dessus. On dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ma fille, elle est avec un pervers narcissique, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Surtout, ne pas rompre le lien. Enfin, pour moi, la seule réponse qu'on peut donner, surtout ne pas rompre le lien, ne pas rentrer dans le cache en disant, attention, ton compagnon, c'est un pervers narcissique, faut que tu le quittes tout de suite. Parce que quand on est sous emprise, on est incapable d'entendre ce discours-là. Moi, j'étais incapable. Ma femme ne me l'a pas dit, mais elle est restée. Et quand je disais au tout début que c'est l'amour qui sauve aussi, aujourd'hui, je suis capable de dire que si elle n'était pas restée, je suis pas sûr de ce que je serais devenu.
Vous en seriez. Oui.
Voilà. Mm-hmm. Donc non, mais je le dis au passage, c'est quand même...
Je crois savoir que vous lui avez confié beaucoup de choses, dont le fait que vous étiez devenu orphelin assez jeune.
Oui, tout à fait. Tout à fait, moi j'étais orphelin de père à 13 ans, et ma mère, je l'ai perdue, j'avais 30 ans. Et donc, si vous voulez, évidemment, je lui ai confié ça, puisque dans une relation amicale, si vous voulez, elle a très vite su, ça fait partie des premières choses qu'on se dit, hein, quelle est ta vie, etc.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que je suis à peu près persuadé qu'elle s'est glissée à l'endroit où il fallait être, c'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure, la sœur, quoi. La sœur que j'ai jamais eue.
La sœur qu'elle n'avait jamais eue.
Mm-hmm. Et oui. Et cette sœur, forcément, si vous voulez, la sœur qu'on n'a jamais eue, si on, dans la mesure où il y a de l'amour et un lien qu'on considère comme fraternel, on l'écoute. Alors, on l'écoute d'autant plus qu'elle est censée avoir des dons de magnétisme. Et j'en savais quelque chose, j'étais son expert comptable, donc si vous voulez, elle avait des clients de partout. Donc, pour moi, elle avait ce don. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis incapable de répondre si elle l'a ou pas. Mais à l'époque, je pensais qu'elle l'avait. Donc, forcément, je l'écoutais d'autant plus quand elle me disait, tu vas voir, tu vas vendre, ça va bien se passer. Alors, en l'occurrence, ça s'est bien passé, c'est-à-dire que j'ai vendu assez vite. Mais les pervers narcissiques sont souvent des escrocs, ils aiment l'argent et le pouvoir, c'est la notion, la partie narcissique. Et une fois que j'ai eu vendu, elle m'a demandé si je pouvais lui prêter de l'argent. Alors ça, ça a été une étape aussi très importante, puisque cette étape-là, si vous voulez, je l'ai gardée entre elle et moi, c'est-à-dire que mon épouse ne savait pas. Je lui ai prêté de l'argent, évidemment, j'avais vendu mon cabinet, j'ai pas de difficulté à lui prêter, au moins pendant une période courte. Et puis, il a fallu que je fasse autre chose de ma vie, hein, puisque j'ai vendu en 2015, à 50 ans, il fallait que je fasse autre chose. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit de manière très intelligente, écoute, maintenant, tu as vendu, tu vas réaliser ton projet de vie. Hein, qui peut dire non? Qui peut penser que c'est une idée, si vous voulez, déviante? Alors, personne. Et mon projet de vie, c'était un projet qui n'avait rien à voir avec la comptabilité. C'était un projet, si vous voulez, plutôt convivial, où on pouvait, quand on est en campagne un peu isolée, quand on veut faire la fête, c'est toujours un peu compliqué. Donc je me disais, on peut trouver un endroit où on peut boire un verre, danser, manger, dormir au même endroit. Donc c'était un projet comme ça, vous voyez, c'était quatre verbes. Je me disais, allez, feu, on lance ça. Et elle m'a dit, bah écoute, t'as vendu, je vais t'accompagner et tu vas faire ça. Quand je vous dis que c'est un projet, si vous voulez, ça fait, j'avais eu cette idée-là il y a 15 ans avant, hein. Une idée comme ça qui m'était passée par la tête. Et elle, a plongé dedans en disant, allez, faisons ça. Bien sûr, il fallait monter complètement ce projet, c'est-à-dire partir de zéro pour monter ce projet. Et là, ça a été, si vous voulez, extrêmement long, c'est-à-dire que j'ai vendu en juin 2015, je lui ai prêté de l'argent dans la foulée, et elle m'a fait visiter, parce qu'elle est venue avec moi, tenez-vous bien, le jour de mon anniversaire de mariage, un dimanche, on a été visiter une ruine dans la région, c'est d'ailleurs encore sur Google, je crois, une ancienne boîte de nuit qui avait brûlé. Donc un truc, si vous voulez, comme ça, quand on regarde le truc, faut être fou pour acheter ça. Soyons clairs, aujourd'hui je le dis. Mais pour autant, il y avait quand même eu un projet à l'époque économique là-dedans, une boîte de nuit qui avait très bien tourné, c'était au bord du Cher, un endroit absolument magnifique. Et je me souviens qu'elle avait son pendule à l'époque, puisque ça fait partie de ses outils pour travailler. Et elle me dit, écoute, c'est là, c'est sûr, ça va très bien fonctionner, etc. Donc ça, c'était le début d'une histoire. Mais le problème, c'est que tout s'est enclenché derrière. C'est-à-dire, si vous voulez, évidemment, comme je suis expert comptable, je ne suis pas contenté de son avis. J'ai fait des prévisionnels, j'ai rencontré un certain nombre de gens, des experts. Il a fallu passer par le permis de construire. Enfin, vous imaginez tout le chantier, puisqu'on partait d'une ruine et il fallait construire un bâtiment énorme. Donc ça m'a valu un certain nombre de déconvenues, mais elle a toujours été là. C'est-à-dire, si vous voulez, elle m'accompagnait, tout au moins elle faisait mine de m'accompagner, parce que je l'ai su qu'après. C'est-à-dire qu'elle m'a aidé à choisir un certain nombre d'interlocuteurs, d'artisans pour monter ce bâtiment. Elle a été après jusqu'à m'aider dans les embauches, les recrutements. Et donc, si vous voulez, pour moi, à la limite, ça roulait. Elle était là, à côté de moi. Elle allait m'accompagner. Elle s'était même engagée non seulement à me rendre ce qu'elle me devait, mais à m'accompagner financièrement dans le projet.
D'accord.
Donc, vous voyez, c'était sort de cœur, mais en même temps, pas associé, parce qu'ils sont pas fous, ces gens-là. Bien évidemment, elle ne voulait pas apparaître sur les papiers. Hein. Mais pour autant, c'était plus que des promesses, hein, puisque c'était prévu qu'elle me prête de l'argent pour...
Vous étiez dans le fantasme que beaucoup de personnes ayant travaillé dur... dans n'importe quel secteur que cela soit, hein, le fantasme d'avoir son bar, son restaurant,
vous avez raison, oui.
Dont on balaye le pas de porte le matin à l'arroser tôt comme ça.
Oui, on peut le dire. Vous avez raison. Faut alerter aussi que c'est un fantasme et qu'il faut surtout oublier.
C'est surtout que moi je l'ai fait il y a 20 ans ça, et je peux vous dire que alors pas de pervers narcissique autour de moi ou quoi que ce soit, mais que la restauration ou avoir un bar, c'est un vrai métier et proche même de la vocation, et que si vous ne l'avez pas cette vocation, vous vous engagez dans une galère totale, parce que c'est un métier très compliqué.
C'est un métier très compliqué.
Moi, j'avais choisi les deux, hein. Bar-restaurant. Ah oui. Vous voyez, donc j'ai fait double peine.
Mais c'est ça. Et puis, si vous voulez, moi, ce qu'il y a, c'est que si vous voulez aussi, c'était un projet très important en termes de dimensionnement, etc.
Oui.
Et je pense aujourd'hui, avec beaucoup de recul, parce que j'ai analysé tout ça, j'ai fait mon enquête moi-même, si vous voulez, elle savait pour le coup que j'allais me planter. Si vous voulez, c'est tout à fait
ah,
ça.
Vous pensez qu'elle savait que vous...
Ah non, mais je pense pas. Si vous voulez, un pervers narcissique, il faut quand même le dire haut et fort. La différence entre un manipulateur et un pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique veut vous détruire. Ce qui n'est pas le cas d'un manipulateur, fort heureusement. Mmh. Fort heureusement, parce que les manipulateurs, il y en a beaucoup. Hein.
Un manipulateur, il veut vous arnaquer, généralement.
Voilà, il veut juste vous arnaquer. Après, voilà. Le reste, bon. Inch'Allah.
Ça n'a rien à voir avec un pervers narcissique.
On est d'accord. Donc là, si vous voulez, voilà, elle m'emmène là-dessus. On ouvre très péniblement. Donc, vous voyez, on passe de juin 2015 où j'ai vendu à juin 2018 où on ouvre l'établissement. Mm-hmm. On ouvre cet établissement. Alors, le comble du comble, c'est que bien sûr, vous avez tout dit. Moi, je suis profession libérale. Je suis pas un barman ni restaurateur. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au projet. Et c'est mon épouse qui, figurez-vous, est issue du milieu de la restauration,
oui.
qui tenait l'établissement.
Bon, ça a été votre salut, ça, je pense.
Alors, ça a été mon salut à ce moment-là, mais en même temps, c'était une des périodes les plus terribles, puisque moi, j'étais, si vous voulez, je gérais donc les gîtes de mon épouse. On avait inversé les rôles.
Mm-hmm.
Sauf que le bâtiment était à une heure de route. Elle rentrait à 4h du matin. Et moi... si vous voulez, je n'ai jamais perdu mon professionnalisme, c'est-à-dire qu'évidemment, j'avais quoi devant moi ? Des chiffres qui étaient évidemment pas bons.
Catastrophique.
Et si vous voulez, catastrophique, et je sentais déjà, pas la fin, mais je savais que ça n'allait pas durer. Alors vous savez, vous êtes chez vous, un peu d'antidépresseur, parce qu'évidemment, ma chère sœur m'avait conseillé de prendre des antidépresseurs parce que j'étais pas bien.
Mm-hmm.
Parce que je vous passe des étapes, mais il y a eu d'autres étapes, mais bon, j'essaie de résumer. On a déposé le bilan en décembre 2018, c'est-à-dire que l'affaire a duré 6 mois.
Oh,
ça a été très très vite, et quand j'ai compris au mois de novembre 2018, au moment où je lui ai demandé qu'elle me rende non seulement ce que je lui avais prêté, et qu'elle participe au projet. Et là, j'ai eu la réponse classique du pervers narcissique. Écoute, faut que j'en parle à mon avocat. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai eu
une grosse sœur.
Alors, ce n'est plus la sœur.
Ah,
et en même temps, si vous voulez, le cerveau, dans la mesure où vous êtes déjà au fond du trou, si vous admettez du jour au lendemain ou en quelques secondes que celle que vous pensiez être votre sœur, c'était votre pire ennemi, c'est quand même très difficile. Donc moi, j'ai eu une période de déni parce que je pense que, après réflexion, si vous voulez, les appels, je vous disais qu'elle m'appelait journalièrement, etc., etc. Au moment où le projet s'est monté, elle était de moins en moins présente. C'est-à-dire qu'une fois que ça s'est ouvert, que je lui avais prêté les sous, qu'elle avait ce qu'elle voulait...
Vous lui avez prêté 100 000 euros, hein, c'est beaucoup d'argent.
En 4 fois.
C'est beaucoup d'argent.
Oui, c'est beaucoup d'argent.
Ben oui.
C'est beaucoup d'argent, mais si vous voulez, la confiance, vous savez, l'argent, effectivement, on peut dire, ouais, ben c'est, mais vous savez, après, c'est proportionnellement, si vous voulez, bien sûr, ça fait énorme. Mais aujourd'hui, à l'époque, je pouvais le faire, j'avais vendu mon cabinet. Et comme je lui faisais toute confiance, que je la considérais effectivement comme surendettée et que c'était ma sœur, je voyais pas pourquoi je lui aurais pas prêté.
Oui, oui, oui.
Si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire.
Bien
Alors
sûr.
Je lui ai prêté. Bon, j'assume. Hein. Et si vous voulez, là quand je me suis réveillé en novembre 2018, évidemment c'était beaucoup trop tard, puisque j'étais au bord de la ruine financière, puisque j'avais pris moi d'énormes engagements mais personnels.
Mmh. Vous êtes engagé à hauteur de 2 millions d'euros pour que tout
Alors,
le monde
un truc de fou.
Se
oui.
rende compte de,
oui.
de l'investissement et surtout combien vous étiez à côté de vos pompes, hein, parce que
tout à fait. Oui,
s'engager
oui, pour un expert comptable.
Vous voyez, pour un petit bar. Bon,
oui.
Acheter une affaire de 200-300 000 euros
c'est ça.
Passe, mais là, vous avez restauré une ruine de 800 mètres carrés.
Tout à fait.
Vous vous êtes lancé dans un truc gigantesque.
Un truc pharaonique, et pour vous quand même donner l'info à ceux qui nous écoutent, pour pas qu'ils me prennent quand même complètement que pour un fou.
Non, mais ça peut arriver à n'importe qui. Alors, vous savez, les gens qui écoutent cette libre antenne
oui.
Connaissent... beaucoup de témoignages qui bon les ont bien éclairés sur
oui.
la capacité que certains êtres hommes ou femmes ont à vous faire tout un tas de choses incroyables
C'est tout à fait ça, c'est une histoire de fou. C'est incroyable, c'est le mot que vous dites. Moi, je résume toujours par une histoire de fou. Et je voulais juste vous dire, parce que par rapport à son mari qui s'est suicidé, parce que c'est quand même un point important, j'ai appris derrière, son mari était architecte. Si vous voulez, c'est un architecte d'intérieur qui avait une petite affaire qui marchait très bien. Et quand elle m'avait appelé, c'était parce qu'il avait un problème fiscal. Et en l'occurrence, elle l'avait emmené vers un projet pharaonique, c'est-à-dire qu'elle avait fait du copier-coller avec moi, sauf que je n'étais pas son mari. Elle l'a emmené vers un projet pharaonique où qui n'a pas marché. Et si vous voulez, je suis à peu près persuadé aujourd'hui, parce que j'ai quand même quelques j'ai pu découvrir un certain nombre de choses, que ça fait partie des motifs, en tout cas, qui l'ont amené à mettre fin à ses jours. Et je pense, je rajouterais qu'elle a tout fait pour que ça soit le cas. Mais ça n'engage que moi. Hein. Mais si vous voulez, c'est pour ça que je dis, c'est très difficile à expliquer. Mais si vous avez déjà eu des témoignages, je pense que les gens peuvent comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, moi, je suis cartésien, je suis expert comptable. Et effectivement, ça peut arriver à tout le monde. C'est aussi pour ça que je témoigne et que j'en ai fait une assoce. Hein, ça, on en parlera peut-être 5 minutes si vous le voulez bien. Mais c'est parce que, si vous voulez, cette expérience de vie, d'une part, je la souhaite à personne. Et je pense que ça peut arriver, comme vous dites très clairement, à n'importe qui. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, avec l'intelligence, avec l'émotion. Ça n'a rien à voir avec tout
non,
ça.
Non, on joue là sur les sentiments, on joue là sur l'émotionnel, sur la sensibilité. On joue là sur, bien évidemment, les fantasmes de se réaliser dans la vie, de réaliser un rêve. Et puis, quand on a quelqu'un à côté qui a choisi de manipuler et qui ne fait que vous encourager et vous appuyer dans les décisions que vous devez prendre, mais que finalement elle vous a amené à prendre, il y a plus rien, il y a plus de filet, il y a plus rien qui vous retient là.
Non.
Même pas votre femme, je suppose, parce que votre femme, à un moment, 2 millions d'euros. Elle a dû se demander où vous étiez en train de partir. Ah,
mais elle a, ça a été terrible, hein, si vous voulez. Pour elle, ça a été terrible. Elle, c'est très difficile pour elle de parler encore de ça, hein, parce que on n'a pas vécu la même chose, évidemment. Hein, mais on l'a vécu en tout cas en même temps. Mais il faut rajouter que dans sa perversion, comme elle était médium magnétiseur, elle ne tenait pas le même discours à mon épouse qu'à moi, et non plus à mes filles, parce que j'ai deux filles. Alors, ma fille, j'en ai une qui a 20 ans, et l'autre qui en a 28.
Aujourd'hui, hein?
Oui, aujourd'hui.
D'accord.
Donc, si vous voulez, à l'époque, ma plus jeune fille a été manipulée, parce qu'elle était souvent chez nous, comme je vous le disais. On la laissait, de temps en temps, avec nos enfants, puisqu'on avait 4 enfants, famille recomposée. Et j'ai...
Donc, elle avait 14 ans à l'époque.
Elle avait, 2009, oui, c'est ça. Mm-hmm. Oui, 13, 14 ans, tout à fait. Donc là, vous savez, où on est encore plus influençable que la normale. Je ne sais pas aujourd'hui, parce que ma fille ne s'en rappelle plus ce qu'elle a pu lui glisser à l'oreille, mais j'ai failli ne plus la revoir. Un jour, elle m'a appelé en me disant, écoute, papa, on les avait tous les 15, comme on est famille recomposée, je vous le disais, on les avait tous les 15 jours à la moitié des vacances. Et un jour, la veille des vacances, elle m'appelle en me disant, écoute, papa, je veux plus venir te voir. Alors, je vous explique pas, c'est évidemment au moment où ça allait pas. Et j'ai même rencontré une psychiatre mandatée par mon ex-épouse pour me dire que ma fille ne voulait plus venir, mais ne pouvait venir du tout.
D'accord.
Donc, je ne dis pas pour un papa qui est déjà au fond du trou. En plus, je ne comprenais pas. Heureusement que tout ça, maintenant...
n'allons pas trop vite.
Oui.
Quand vous vous réveillez, parce que je crois savoir qu'elle invoque son avocat, au moment où elle doit rembourser l'argent, et qu'elle disparaît en plus.
Alors, elle disparaît pas, mais elle est plus, si vous voulez, elle m'appelle, sur les 6 derniers mois,
elle est beaucoup moins joignable.
Plus d'images. C'est tout à fait ça. Mm-hmm. C'est tout à fait ça.
Un grand classique.
Et je l'appelle, grand classique, je l'appelle une fois, deux fois. La troisième fois, elle me dit, bon, écoute, faut arrêter de me harceler. Elle a utilisé ce terme-là. Hein. J'avais enregistré d'ailleurs la conversation.
Ça voulait dire et attention.
Là, c'est ça. Attention. Et là, si vous voulez, j'ai compris. Le cerveau, comme je vous le disais, est retourné dans le bon sens. J'appelle ça un réveil, vous savez, comme un coma léger.
Non, mais non, on se réveille comment? Vous êtes réveillé comment, Jean-Jacques?
D'un coup, vous savez, ça a été le déclic. Le déclic, je me suis dit, tu t'es fait avoir. Tout était faux. Alors, je vous explique pas. Toutes les années d'avant, vous vous dites, tout ce que j'ai vécu était faux. Par contre, ce qui est pas faux, c'est que t'es en ruine, que tu as 5 procès, que tu risques de perdre ta maison, tu vas repartir dans une caravane, ta femme, je ne sais pas encore sûr qu'elle va rester. Enfin, c'est une descente aux enfers absolument
terrible. C'est comme sorti d'un coma, en fait.
Pour moi, c'est comme un coma. Alors, je ne l'ai pas vécu, mais je pense que c'est comme un coma léger. Vous savez, vous repartez, alors avec plus aucune confiance en vous, bien évidemment, mm-hmm. puisqu'elle vous a tellement ballotté sur des trucs inimaginables que vous dites, mais t'es bon à rien, mon pauvre vieux. T'es bon à rien, tu sais même plus faire ton métier. Moi, si vous voulez, j'ai aucune... je veux dire, à un moment, on fait un certain nombre d'études, mais que ce soit expert comptable ou autre chose, moi, c'est pas plus suite, mais j'en ai pas vraiment de fierté. Mais vous savez, j'avais l'impression de plus savoir rien faire, y compris mon métier. Et là, vous vous réveillez. Heureusement que ma femme était là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais plus que ma femme. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas vous dire pourquoi, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Le réveil, ça a été comme ça. J'ai échangé avec mon épouse. Je lui ai dit, écoute, voilà, je vais prêter de l'argent. Elle me les rend pas. On a échangé longuement. Ma femme m'en a beaucoup voulu de pas lui avoir dit que je lui avais prêté de l'argent, parce que je pense qu'elle aurait peut-être mis le pied dans le plat avant, mais ça aurait rien changé.
Vous lui aviez pas dit. Vous lui aviez pas dit.
Non. Mais
et puis, elle non plus, bien évidemment.
Voilà, elle non plus, et de toute façon, je pense que ça aurait été trop tard, mais bref. Et le matin, le lendemain, je me réveille, je ne peux pas vous dire pourquoi, j'ai tapé sur Google « pervers narcissique ». Mais je ne peux pas vous dire pourquoi, j'ai été chercher, vous savez, il y a des sites qui sont très bien faits, qui sont faits par des psychiatres, qui vous font des questionnaires pour savoir à qui vous avez affaire, avec un certain nombre de points caractéristiques du pervers narcissique. J'ai fait ce questionnaire, qui répondait à 90%, oui, et quand mon épouse s'est levée un petit peu plus tard, on a combiné qu'on devait avoir affaire à une perverse narcissique. C'est parti de là. J'ai donc moi-même appelé mon avocat pour me défendre, parce que figurez-vous, et ça c'est très compliqué, hein, dites à vos auditeurs que si un jour ils prêtent de l'argent, surtout respectez la loi, une dette doit être écrite par celui à qui vous prêtez, écrite de la main. Alors ça, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que moi, j'avais évidemment tapé, comme tout le monde, comme presque tout le monde, sous Word, avec une signature en bas, et ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous prêtez de l'argent à quelqu'un, s'il n'écrit pas qu'il vous doit de l'argent, mm-hmm. Il n'y a pas de dette. Alors, il a fallu que je me batte auprès des tribunaux.
Alors, est-ce que vous savez aussi, j'ai appris un autre truc dernièrement, c'est qu'au bout de 10 ans, une dette s'annule. Vous le saviez,
oui,
ça?
C'est la prescription. Alors oui, parce que c'est la prescription. Mais
moi, je savais pas.
Ah, mais c'est fou, hein.
C'est fou.
Aujourd'hui, si vous voulez, la loi, c'est gentil, mais donc c'est moi qui ai dû prouver, mais comme dans toute cette histoire, mm-hmm. Derrière, vous êtes au fond du trou, on vous attaque, parce qu'évidemment, vous avez pris des engagements auprès des banques, mais non seulement ça, mais il a fallu que je montre et que je prouve que cet argent, elle me le devait.
Et est-ce que vous avez réussi?
Alors oui. C'est pour ça que je vous parlais de résilience au tout début. Aujourd'hui, j'ai eu 5 procès, j'ai gagné mes 5 procès. C'est-à-dire que j'ai sauvé ma maison. J'aime bien l'expression « aide-toi, le ciel t'aidera ». J'ai tout donné pour ça, parce que vous savez, quand on est en procès, il faut que les gens comprennent aussi. On a un avocat, on compte sur notre avocat, mais à un moment, dans des histoires aussi complexes, si vous donnez pas du grain à moudre à votre avocat, l'avocat, il fera rien. Aussi bon soit-il, il ne fera rien. Mm-hmm. Surtout sur des choses qui sont très difficiles à prouver. Mm-hmm. Il a fallu que je démontre, comme je vous dis, elle savait tout. Elle a essayé de piquer le truc et de dire, de toute façon, attendez, il me l'a donné.
Est-ce que vous avez récupéré votre argent?
Alors aujourd'hui, j'ai gagné fin 2020 mon procès et je suis censé avoir, elle me doit encore 20% de la somme que je suis censé percevoir dans le mois qui vient, c'est-à-dire 4 ans après la victoire, après avoir gagné mon procès.
Et Frida, bonjour, il est 5h passé de 58 minutes. Tout de suite, Max vient de nous rejoindre à l'instant. Max, bonjour.
Bonjour Frida, bonjour toutes les animateurs et les Fridomiens, Fridomiennes. Je demande à tous les automobilistes qui sortent sur Sainte-Anne, qui vont en direction Saint-Denis, la fin de voie à deux voies, je demande de prendre la route nationale, il y a un accident pour 1h30, le dépanneur vient de me dire en face, parce que l'automobiliste fait demi-tour sur deux voies à deux voies. Pour reprendre la route, l'ancienne route nationale par Brapanon. Voilà.
Ah, donc au début de la 4 voies de Saint-Benoît, il y a eu un accident, oui. Donc il faut passer par l'ancienne route, donc passer par Brapanon.
Oui, parce que la route est bouchée, et je demande aux forces de l'ordre d'intervenir au plus vite, parce qu'il y a des gens sur le pont Note, Brancanote, qui va monter sur Saint-Denis, il n'y a pas de forces de l'ordre. on n'a que la DDE, l'ancien gymnase de Saint-Benoît, Beaulieu. Là, on a la DDE qui fait la circulation. Mais je demande à la gendarmerie et la police nationale de se vraiment remédier cette affaire au plus vite pour la sécurité des biens et des personnes.
Voilà. D'accord. Il n'y a que la DRR sur place.
Oui, que la DRR sur place, mais j'ai pas pu aller vers l'accident. C'est que le dépanneur Canfred, je le remercie, de me dire.